France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 4 octobre. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonnaz, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, choc dans le sein du Saint policier parisien. 4 fonctionnaires de la préfecture de police tués à coups de couteau par un de leurs collègues. Le tueur n'avait donné aucun signe d'alerte. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi, mais toutes les pistes restent ouvertes. On voit ça, Bernadette, après les autres titres.
Retraite, Emmanuel Macron face aux Français, rafale de questions, réponses floues, retour sur 3 heures de débat hier à Rodez. Convention citoyenne pour le climat, les 150 Français tirés au sort démarrent leurs travaux. Protection du mode de vie européen, levée de bouclier à Bruxelles autour du titre de la commission chargée des migrations. L'immunothérapie contre le cancer, lancement d'un vaste essai clinique sur les malades âgés. Et puis les fleurs de la discorde, les tulipes de Jeff Koons dévoilées ce matin sur les Champs-Élysées.
Les invités d'Inter aujourd'hui, 7h50 au micro d'Ali Badou, le haut fonctionnaire David Jaiz qui publie « Slow démocratie, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main ». Ce livre est publié aux éditions Alary. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le directeur artistique de la Nuit Blanche à Paris, Didier Fusilier. Si vous voulez parler d'art, de loisirs, de culture, de divertissement, d'art contemporain, vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
On l'appelle la PP, la préfecture de police de Paris, plus qu'une institution, une famille, le cœur de la police parisienne. Le fameux 36 quai des Orfèvres, policier, administratif, tout le monde se connaît au moins de vue. Alors quand l'un des leurs sort un couteau et tue 4 de ses collègues, en blesse 2 autres, c'est la sidération. Joint par Sophie Parmentier, ce gardien de la paix qui souhaite garder l'anonymat.
La police est une grande famille, alors la PP est une petite famille à l'intérieur. Je vais pas dire on se connaît tous, mais on connaît du monde un peu partout, on connaît beaucoup de services. Et donc forcément, le premier truc qui passe en tête, c'est est-ce que je connais la personne. Et puis après, on apprend que ça vient de l'intérieur, ça vient de chez nous. On se demande ce qui a pu se passer. Même sans connaître les collègues, c'est des frères et sœurs qu'on a perdus.
Le choc est d'autant plus grand que le tueur, Michael H., 45 ans, travaillait depuis des années dans les bureaux de la préfecture de police. Informaticien, il n'avait donné aucun signe pouvant inquiéter, converti à l'islam mais sans radicalité apparente. Ariane Grissel.
Aucune difficulté comportementale, pas le moindre signe d'alerte. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le dit lui-même. En 16 ans de service à la préfecture de police de Paris, cet informaticien n'a jamais fait parler de lui. Jusqu'à cette attaque, il est environ midi et demi quand il se saisit d'un couteau et commence à frapper. D'abord 3 personnes dans son service, la direction du renseignement, puis 2 dans l'escalier. L'assaillant arrive jusqu'à la cour. Un policier lui ordonne plusieurs fois de lâcher son couteau avant de faire feu et tuer le quadragénaire. Très vite, une perquisition est menée à son domicile à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Sa femme est placée en garde à vue. Le tout pour essayer de déterminer les motivations de cet homme. Les enquêteurs creusent plusieurs pistes, sa conversion à l'islam il y a quelques mois, ses relations avec ses collègues. Le parquet antiterroriste suit l'évolution des recherches pour décider s'il se saisit ou non de ce dossier.
Et la femme du tueur est toujours en garde à vue ce matin.
Emmanuel Macron, Bernadette, qui a demandé une minute de silence en hommage aux victimes hier soir à Rodez.
Une minute de silence donc avant d'entamer son premier débat public avec les Français sur la réforme des retraites. 500 étaient réunis hier autour de lui, lecteurs des 3 quotidiens régionaux de la Dépêche. Objectif écouter, rassurer, mais entre un président dans l'esquive et des Français sur le qui-vive, l'échange n'a pas vraiment eu lieu, Cyril Graziani.
Emmanuel Macron a d'abord pris le temps de cadrer le débat et sa pensée sur l'âge légal.
Ça bougera pas. Mais à 62 ans, aujourd'hui vous partez et vous avez une retraite qui est peut-être pas votre retraite à taux plein si vous n'avez pas tous vos trimestres. C'est un choix, il est libre.
Place aux rafales de questions, 5 par 5, du très classique. Interrogé sur l'absence de simulateur du gouvernement pour calculer sa retraite, il répond dans son style.
Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il y a des journaux qui en ont sorti, des gens qui font des sites... C'est de la pipe complète, hein.
Stéphane Multel de Rodez. Est-ce que, au moment de la retraite, ceux qui ont gagné beaucoup plus pendant leur vie active, eh bien, cotisent vraiment beaucoup plus?
Emmanuel Macron, là, ne prend pas de risque.
J'ai essayé, c'est douloureux. L'augmentation de la CSG à la retraite, ça rejoint ce que vous disiez, ça a été mal vécu.
Monsieur, allez-y.
Parfois, des interrogations très simples.
Le micro fonctionne, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président. Anthony Belobre, 30 ans. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit que nous, les jeunes, on n'aura jamais de retraite. Donc, avec votre système, qu'est-ce qu'il en sera ?
Le président esquive, fait des réponses interminables, se mue même en conseiller retraite.
Le commissaire va venir vous voir pour que votre cas particulier puisse être traité, monsieur. Ça, on va regarder, rassurez-vous, ça je m'y engage.
Le risque esquissé lors de ce premier grand débat, c'est surtout de faire face à 67 millions de cas particuliers. Rodez, Marc Garvenès, Cyril Graziani, France Inter.
Débat sur les retraites, convention citoyenne pour le climat, la nouvelle démocratie est-elle en marche ? C'est en tous les cas le souhait du gouvernement. Cet après-midi, les 150 Français tirés au sort pour se saisir de la question climatique, faire des propositions pour atteindre l'objectif de réduction d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, entament leur débat. Un fil rouge, Célia Quiret, justice sociale.
Les transports, le logement ou l'agriculture. A priori, seuls les thèmes sont sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou. Laurence Tubiana co-préside le comité de gouvernance de cette convention. C'est elle qui avait négocié, entre autres, l'accord de Paris sur le climat. Elle sait bien que certains thèmes sont explosifs.
La question de la rénovation des logements, est-ce que ça doit être obligatoire pour les propriétaires avant de louer ou est-ce que ça ne peut pas être obligatoire ? C'est des questions qui sont dans la société. De la même façon, est-ce qu'on doit orienter la consommation alimentaire ou pas ? Est-ce qu'on doit imposer des limitations à l'usage de la voiture privée ? Tout ça, c'est des débats qui existent dans la société sur lesquels il n'y a pas de consensus. On va incarner ces débats par des experts, mais enfin qui défendent tel ou tel point de vue, et aux citoyens ensuite de construire leur vision. On serait d'ailleurs bien incapable de proposer un paquet de solutions toutes faites, puisque au fond, ce qu'il faut chercher, c'est une construction commune, et que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé.
Et parmi ces sujets très conflictuels, il y a bien sûr la taxe carbone, à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Pour Laurence Tubiana, les citoyens pourront par exemple réfléchir à une taxe carbone plus juste, socialement et donc acceptable. Mais pour les organisateurs, il faut aller beaucoup plus loin et proposer par exemple d'investir dans les transports en commun. Mais avec quels moyens, les citoyens ne le savent pas. Ils devront donc émettre des propositions sans budget affecté. Fin de l'épreuve en janvier, les copies sont à remettre au Premier ministre.
Et voilà 6 week-ends de prix jusqu'à fin janvier pour ces Français. Les députés votent un amendement qui reconnaît en France la filiation d'enfants conçus à l'étranger par GPA dans un pays étranger. Le gouvernement n'est pas d'accord, il réclame une seconde délibération alors que la manif pour tous se remobilise dimanche. Ils représentent les deux tiers des cancers, pourtant ils sont les parents pauvres des essais cliniques. En raison de leur âge, ils sont souvent exclus des études sur les nouveaux traitements. Sur le terrain, pourtant, on se rend compte que les personnes âgées peuvent être très réceptives à ces nouveaux traitements, d'où le lancement en France d'un essai clinique inédit, Véronique Julia.
Plus d'une centaine de patients de 70 ans et plus vont être inclus dans cette étude. Ils souffrent d'un cancer du poumon ou d'un cancer ORL. Pas de limite d'âge dans le recrutement, mais un état général plus ou moins bon selon les cas. On regarde notamment leur force musculaire, leur appétit, leur état cognitif et leur autonomie. Tous vont suivre jusqu'à 2 ans de traitement d'immunothérapie. Objectif, vérifier que ça marche chez eux et surtout comment ils le supportent. Capucine Baldini est oncologue médicale à Gustave Roussy.
On a évidemment des patients pour qui ça fonctionne étonnamment bien, mais on a besoin d'avoir à grande échelle des données qui nous démontrent par des preuves en fait scientifiques que ça fonctionne. Là actuellement dans notre service, on a un patient qui a 90 ans hein, et qui supporte justement d'ailleurs l'immunothérapie extrêmement bien. Et c'est aussi ce qu'on veut montrer dans cette étude, quoi, que tous les patients âgés ne sont pas les mêmes.
En fonction des résultats, on sera capable de déterminer les profils de patients âgés qui feraient de bons candidats pour l'immunothérapie, sur quels traitements seraient profitables et les effets secondaires supportables. Ça permettrait de ne pas s'interdire ces traitements innovants et onéreux chez le patient âgé, mais de ne pas non plus y recourir si ce n'est pas efficient. Le traitement le plus courant en immunothérapie coûte plusieurs milliers d'euros par mois contre seulement quelques centaines d'euros pour une chimio classique. 30% des patients qui souffrent d'un cancer du poumon ont plus de 75 ans.
France Inter, il est 7h09 à Bruxelles. Bernadette, l'intitulé qui ne passe pas.
C'est même une levée de bouclier autour du titre envisagé pour la commission chargée des migrations, protection du mode de vie européen. Le candidat commissaire, le grec Skinas, a subi 3 heures d'audition particulièrement animée, Pierre Benazé.
Sur le fond des dossiers, Margaritis Skinas emporte plutôt l'adhésion des députés. Mais dès les premières questions et à plusieurs reprises, le candidat commissaire se voit reprocher cet intitulé « Protection du mode de vie européen ». Sophie Intveld, centriste néerlandaise.
Ce titre combiné au portefeuille des migrations est toxique. Il a été salué comme une victoire par l'extrême droite. Le choix de ce titre est une erreur, ou pire, un mauvais jugement politique.
Margarita Skinas affiche son intention de promouvoir un équilibre entre intégration et maîtrise des frontières.
La façon dont nous structurons notre politique migratoire est basée sur le principe que l'Europe sera toujours une terre d'asile. Mais nous devons aussi être très clairs, ceux qui ne sont pas éligibles pour l'asile devront finir par repartir.
Comme une grande partie des députés, la libérale démocrate britannique Judith Bunting semble convaincue par les compétences de Margarita Skinas, mais le nom du portefeuille ne passe vraiment pas.
Je vous demande de ne pas être arrogant ou sur la défensive, mais de retourner voir Ursula von der Leyen pour envisager un nouveau nom.
Mais pour Margarita Skinas, renoncer à l'intitulé de protection du mode de vie européen serait en fait céder au populisme. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
Quant à Sylvie Goulard, la candidate française à la commission du marché intérieur, elle n'a guère convaincu avant-hier. Une seconde audition devant les eurodéputés est envisagée. Bagdad s'embrase, des dizaines de blessés par balles dans la capitale et aussi dans plusieurs villes du pays. La jeunesse irakienne réclame maintenant depuis plusieurs jours des emplois et le départ des dirigeants corrompus. Vous allez aimer les fleurs, vous allez adorer ou détester les tulipes de Jeff Koons. Elles vont surgir à la vue de tous ce matin, tout près des Champs-Élysées à Paris. Un bouquet multicolore de 12 mètres de haut proposé par le sculpteur, l'artiste et l'ambassade américaine en signe d'amitié après les attentats de 2015. Geste qui a plutôt provoqué la polémique, Jacqueline Pétrose.
Le cadeau se voulait symbole d'empathie, il a provoqué un tollé et des accusations de mercantilisme. Jeff Koons s'est défendu de tout profit, son œuvre, dit-il, est bien un cadeau. Mais l'argent a été dès le début au cœur des récriminations. Le premier lieu envisagé, le parvis du palais de Tokyo, se révèle trop fragile et les frais de consolidation exorbitants. Quant aux frais de fabrication et d'installation, ils se montent à plus de 3 millions d'euros. La société Noirmont Art Production en charge du projet lance alors une souscription auprès de mécènes privés qui apportent une partie de l'argent. Mais le montant finalement se révèle supérieur. Koons met la main à la poche pour assumer les frais supplémentaires. La sculpture de 33 tonnes est enfin installée. Les tulipes aux couleurs vives trônent non loin de l'ambassade américaine. Et Jeff Koons, pour couper court à toute nouvelle spéculation et prouver que son geste est bien celui du cœur, offre à 80% les revenus de ses droits d'auteur aux associations des victimes et à 20% à la ville de Paris. Reste à savoir si les Parisiens apprécieront l'œuvre par elle-même.
Prix record pour une peinture de Banksy hier soir à Londres. 11 millions d'euros, 10 fois plus que l'estimation. La toile représente le Parlement britannique peuplé de singes. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre en vente ce tableau. Le sens du timing.
Merci Bernadette Chamonaz. Dans 3 minutes, secret d'info, témoignage exclusif pour France Inter dans l'affaire Jeffrey Epstein. Et on fait maintenant le premier point route avec vous, Laurine Benjebria. Bonjour.
Bonjour.
C'est compliqué, Laurine, pour accéder à Paris.
Oui, ça coince au nord sur l'autoroute A1. Comptez une demi-heure pour aller de Gonesse au périphérique via la porte de la Chapelle. C'est compliqué aussi à l'est sur l'A3 et puis sur l'A4 entre Lognes et Nogent-sur-Marne. Et ce n'est pas mieux au sud de la capitale avec des coups de frein sur l'A6 depuis Évry et sur l'A6 A et B jusqu'au périphérique. Et puis en région toulousaine, un accident sur l'A62 perturbe la circulation sur le périphérique extérieur au nord. La voie de gauche fermée à hauteur de Gabardy.